فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن هذه الليلة ليلة 26 من شهر الله المحرم من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس هو 12 في قراءة وشرح هذه الرسالة الطيبة كشف الشبهات لمؤلفها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 15 octobre 2017 et nous voici réunis pour la 12e assise, le 12e cours de l'étude de cet écrit, La dissipation, le dévoilement des ambiguïtés, par l'auteur, le grand savant Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah le récompense et lui fasse miséricorde. Lors de notre dernière assise, j'entends par là l'assise du cours, non pas celle d'hier où l'on a révisé ce que l'on avait déjà étudié. On s'était arrêté sur la 9e ambiguïté véhiculée par les gens du faux qui cherchent à justifier leur acte de polythéisme, d'association, en citant des textes qui n'ont en réalité pas été compris de leur part. Et nous avons déjà vu les 8 premières ambiguïtés. Nous sommes ici dans la 9e. Pour cette ambiguïté, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a donné 9 réponses. Ceci pour montrer qu'il y a plusieurs réponses aux ambiguïtés des gens du faux. Et comme nous l'avons déjà dit, lors de cours déjà passés, parfois l'auteur, rahimahullah, nous montre l'ambiguïté et nous y apporte une réponse. D'autres fois, il nous donne 2 réponses. D'autres fois, il s'étale. Et ainsi de suite. Ici, la 9e ambiguïté, c'est le fait qu'ils disent « Inna alladhina nazala fihim al-Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadhibuna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. Ils disent ceux sur lesquels est descendu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les premiers polythéistes, les gens de Quraysh, les associateurs, ils étaient des gens qui refusaient d'attester que nulle autre divinité qu'Allah mérite l'adoration. Ils reniaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils remettaient en cause la croyance en la résurrection. Pour eux, Allah azza wa jal n'allait pas et ne va pas nous ressusciter. Il démentait le Coran. Il disait que le Coran était une sorcellerie. Quant à nous, c'est tout le contraire. Nous disons la ilaha illallah. Nous disons Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons au Coran. Nous croyons en la résurrection. Nous accomplissons la prière. Nous jeûnons. Comment pouvez-vous donc faire de nous des gens assimilés à eux? Avez-vous compris? Voici le résumé de cette ambiguïté. Après avoir répondu aux 8 premières ambiguïtés, ils disent maintenant tout ce dont vous parlez lorsque vous dites que ceux qui commettent tels et tels actes sont des polythéistes, puis vous justifiez cela par des versets du Coran. Ces versets ont été révélés concernant des gens, ce sont les gens de Quraysh, qui reniaient tout ce en quoi, nous autres croyons. Ce sont des gens qui refusaient de prier, alors que nous autres, nous prions. Ce sont des gens qui ne jeûnaient pas, et nous prions. Comment pouvez-vous faire de nous des gens pareils à eux? C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où la personne dit « La ilaha illallah », croit au Coran, croit à la résurrection, témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager, pour elle, elle est en sécurité. Elle ne tombe plus dans la mécréance, puisqu'elle a déjà toutes ses croyances. Et bien sûr, c'est une croyance complètement erronée, parce que dans l'islam, il y a les annulatifs de l'islam. Et les savants qui ont parlé des annulatifs de l'islam traitent de celui, ce sujet traite de celui qui est musulman et qui annule son islam par des actions ou par des paroles ou croyances, malgré le fait qu'il dit la ilaha illallah, qu'il prie, qu'il jeûne. Et c'est ici que le cheikh a répondu par 9 réponses. Pourquoi est-ce qu'il s'est étalé sur les réponses? Parce que c'est une de leurs plus grandes ambiguïtés. Et c'est celle qui est utilisée aujourd'hui aussi par les gens qui justifient le polythéisme, l'adoration des tombes, l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, en disant « Tout ce dont vous parlez ne nous concerne pas car nous disons la ilaha illallah, nous prions, nous jeûnons. Nous sommes des croyants. » L'auteur va montrer par les preuves du Coran et de la Sunna que cette ambiguïté est plus faible qu'une toile d'araignée et ne tient pas, elle ne tient pas debout comme vous allez le voir, Inch'Allah ta'ala. Il a donné plusieurs réponses à cette ambiguïté. Quant à la première, il a dit فَالْجَوَابُ أَنَّ أَنْ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلِّهِمْ. La réponse, il n'y a aucune divergence chez tous les savants. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ. Que si la personne croit au messager d'Allah et atteste qu'il est véridique dans une partie de son message, وَكَذَّبَهُ فِي شَيْءٍ, pendant qu'il renie une autre partie de son message, أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ, une telle personne n'est pas entrée dans l'islam. Pourquoi? Parce que pour être musulman, il faut tout prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui croit à 99% du message du prophète alayhi salat wa salam et mécroit à 1%, ce 1% lui annule ces 99% auxquels il a cru, car il est tombé dans un annulatif de l'islam. وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضًا. De même, s'il croit en une partie du Coran et en renie une autre, كَمَنْ أَقَرَّ بِالْتَوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ. À l'image de celui qui croit au tawhid, l'unicité d'Allah, et renie l'obligation, le caractère obligatoire de la prière. Qu'en est-il d'une telle personne? Il croit au tawhid, mais il renie le caractère obligatoire de la prière. Est-ce que cette personne est croyante? Non. أَوْ أَقَرَّ بِالْتَوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ. Ou alors la personne croit au tawhid et à la prière. وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ. Et mécroit à l'obligation de la prière. Est-ce que cette personne est musulmane? De la zakat, barakallahu fikum. Cette personne est-elle croyante? Non. أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الصَّوْمِ. Ou la personne croit à tout cela et mécroit au jeûne. Est-ce que cette personne est croyante? Non. أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْحَجِّ. Ou croit à tout cela et renie le pèlerinage. Est-ce que cette personne est croyante? Non. وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي حَقِّهِمْ. Et quand des gens ont mécru à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam au hajj, au pèlerinage, Allah Azza wa Jal a révélé des versets les concernant. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et pour Allah, il est un devoir, une obligation aux gens d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Que dit Allah Azza wa Jal à la suite du verset? وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque mécroit, certes Allah se passe des mondes. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première réponse que l'auteur a donnée. Et en réalité, on est toujours dans le résumé, parce que ce sont les deux cours que nous avions donnés en ligne et non pas à la mosquée. Donc certains ont pu les écouter pendant que d'autres n'ont pas pu les écouter. Donc vous voyez ici que cette ambiguïté est fausse. Elle ne peut pas tenir. Elle est faible. Car celui qui mécroit à une chose du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'il dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûne, il prie, mais il mécroit un hadith, yukadhib, par exemple, un hadith qui est authentique, il le dénigre, il le rejette, il refuse d'y croire. C'est de la mécréance, sans le moindre doute. Et pourtant, il prie et jeûne. Pourtant, il dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la première réponse donnée par l'auteur, rahimahullah. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ بِالْإِجْمَعِ. De même, celui qui croit à tout cela, il croit au tawhid, à la sunna, prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, mais il mécroit la résurrection. Est-il croyant chez Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que non. Il n'est pas croyant. On comprend donc qu'il existe des choses qui peuvent être des paroles, des actions ou des croyances qui sont annulatives de toutes nos bonnes actions et de la croyance à laquelle à la base on adhère. Donc le simple fait de prononcer la ilaha illallah, de jeûner et prier, n'épargne pas la personne si elle ne se protège pas des annulatifs de l'islam. Et parmi les annulatifs de l'islam, solliciter un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ces gens-là le font, en leur demandant ce que seul Allah azza wa jal est capable de donner. Tabaraka wa ta'ala. L'auteur a donné d'autres réponses. La deuxième, où on va citer quelques réponses de l'auteur, rahimahullah ta'ala, concernant ceux qui ont, parmi les compagnons, combattu Banu Hanifa. Banu Hanifa, c'est les suiveurs de Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab, c'est un homme qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prétendu être un prophète. Il a envoyé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: moi aussi, Rasulullah, moi aussi je suis un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a eu énormément de gens qui l'ont suivi et ont adhéré à son mensonge. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a démenti, bien évidemment. Qu'a-t-il fait? Il a formé une armée et a combattu les sahaba radiyallahu anhum, les compagnons, et beaucoup ont péri d'ailleurs. Plusieurs ont péri. Et c'était une rude bataille entre eux. Les compagnons qui ont combattu Musaylama, qui d'ailleurs Musaylama disait qu'il avait lu aussi des sourates, un Coran qui lui était révélé. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la sourate Al-Fil, l'éléphant, et que lui a la sourate Al-Difda, la grenouille. Et il récitait des sourates, des fausses sourates, des fausses sourates du Coran, qu'il prétendait être d'un Coran qui lui a été révélé. Au point où un jour, quand il a récité ça à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon l'a écouté et c'était un groupe de mots n'ayant aucun sens. parlant d'une grenouille qui saute, qui, etc. Il voulait imiter Surat al-Fil, l'éléphant. L'éléphant, il y a une grande histoire dans cette surah. Il y a un tafsir. Le prophète alayhi salam est né fi am al-fil, dans l'année de l'éléphant. Il y a des choses. Lui, il a inventé une surah. Et le compagnon lui a dit, Wallahi, que tu sais, que je sais, que tu sais que tu es un grand menteur. Donc, ça c'est l'histoire de Moussa Ilama. Et suite à cela, il a combattu des sahaba. Ha'ula'i, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qatalu bani hanifa, faqad aslamu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. Les gens de Banu Hanifa à la base étaient des gens qui avaient embrassé l'islam, qui accomplissaient la prière, qui disaient la ilaha illallah, ils faisaient l'appel à la prière, ils priaient, mais ils disaient que Moussa Ilama aussi est un prophète. Écoutez bien cette réponse qu'il va donner. Il disait que Moussa Ilama était un prophète, et le fait qu'ils disent la ilaha illallah ne les a pas épargnés. Ils ont été combattus par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Si à ce moment-là le suiveur du faux dit innahum yaquluna inna Musaylama tanabi, ils disent Musaylama est un prophète, donc c'est normal qu'ils l'ont combattu. Regardez l'intelligence de l'auteur. Forcément, ils vont te répondre cela, ils vont te dire c'est différent. Ici, ils ont été combattus parce qu'ils ont dit que Moussa Ilama est un prophète, c'est-à-dire ils ont élevé un autre homme au rang du prophète, n'est-ce pas, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ils sont tombés dans le piège. S'ils ont été combattus parce qu'ils ont élevé un homme au rang d'un prophète, alayhi salatu wassalam, que dire de celui qui élève un homme au rang d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'ils sont tombés dans leur propre piège. L'auteur dit قُلْنَا, nous répondons هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ, c'est ce que nous recherchons justement. On voulait que tu tombes dans ce piège. إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلًا إِلَى رُتْبَةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ, si quelqu'un qui élève un homme au rang du prophète صلى الله عليه وسلم a mécru et son attestation de foi ne lui est pas utile ni sa prière, فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسًا أَوْ يُوسُفْ أَوْ صَحَابِيًا أَوْ نَبِيًا فِي رُتْبَةِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, que dire de celui qui élève le dénommé Shamsan, le dénommé Yusuf. Il s'agit ici de gens qui étaient adorés à l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Mais ce n'est qu'à titre d'exemple qu'il a cité ces noms. Et la règle est applicable pour quiconque est adoré à notre époque et à toute époque. Donc voici la réponse qu'il a donnée. Ensuite, il a conclu en disant Subhanallah, ma a'zama sha'na. Il s'étonne et il dit Subhanallah. Puis il cite le verset Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. C'est ainsi qu'Allah a scellé les cœurs de ceux qui ne savent pas. On continue. Et si je ne détaille pas, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, ces choses-là ont déjà été vues dans les cours 10 et 11. Donc c'est pour réviser et vous remettre un peu dans le sujet. Incha'Allahu ta'ala. D'autres choses ont été citées à peu près dans le même registre. Il dit aussi, parmi les réponses, إِذَا كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلَّا لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك, فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. Si on dit que les gens d'autrefois, c'est-à-dire les gens de Quraysh et leurs semblables, n'ont mécru que parce qu'ils ont uni le polythéisme au démenti du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, ils n'ont pas cru à la résurrection, etc. Si on dit qu'ils n'ont mécru que parce qu'ils ont uni tout cela en eux, à quoi alors a servi ce fameux chapitre dans tous les ouvrages de jurisprudence les quatre écoles confondues, appelées Bab Hukm al-Murtad, chapitre le jugement de l'apostat, le jugement de celui qui est musulman, comme l'a dit l'auteur, et qui commet un acte le faisant sortir de cet islam. Puis ils ont cité plusieurs et beaucoup de catégories. Kullu naw'in minha yukaffir, dont chacun suffit pour exclure la personne de l'islam. À quoi sert tout cela? En sachant qu'ils se sont basés sur les preuves du Coran et de la Sunna. Ça, c'est une réponse. Et voici la septième réponse dans laquelle nous entrons et que nous allons, Inch'Allah, détailler. وَيُقَالُ أَيْضًا, nous disons aussi, c'est-à-dire en réponse à cette ambiguïté, de dire qu'à partir du moment où nous disons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nous accomplissons la prière, le jeûne, comment pouvez-vous dire de nous que nous sommes polythéistes? Nous disons pour répondre à cela الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Le sujet, le verset qui va être cité est dans la sourate At-Tawbah. C'est le verset 74. Il s'agit de la situation des hypocrites, comme l'a dit l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah dans son commentaire, qui justement disait des paroles par lesquelles il se moquait d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles de mécréance, comme celui qui a dit la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, le plus fort de Médine fera sortir le plus vil. Le plus fort, c'était le chef des hypocrites, et le plus vil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul doute que cette parole est une mécréance majeure. Au sujet de ces gens-là, Allah Azza wa Jalla a dit, ils vont jurer par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, et très certainement, ils ont prononcé la parole de mécréance et ont mécru après leur islam. Y a-t-il plus clair que cela? Ils étaient dans l'islam et ils ont mécru à cause d'une parole qu'ils ont prononcée. Cheikh dit, أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ, n'as-tu pas entendu qu'Allah a dit d'eux qu'ils ont mécru pour une seule parole? مَعَ كَوْنِهِمْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, malgré le fait qu'ils étaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, وَيُجَاهِدُونَ مَعَ وَيُصَلُّونَ مَعَ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ وَيُوَحِّدُونَ, et ils accomplissaient toutes ces actions. Ils accomplissaient la prière, ils accomplissaient le jeûne, ils dépensaient l'aumône, ils accomplissaient le pèlerinage, ils croyaient en l'unicité d'Allah. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a dit que pour cette parole qu'ils ont prononcée, ils ont mécru en Allah Azza wa Jal. Donc tu vois très clairement ici la réponse à cette ambiguïté. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve, a dit فَكَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ مَعَ كَوْنِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلُّونَ. Il dit, Allah Azza wa Jal a dit que ces gens-là ont mécru pour une seule parole prononcée. Et il s'agit de gens qui priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors des mouchriquins de cette époque? Que dire alors des polythéistes de cette époque? Une autre réponse aussi. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ, de même, ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jal a dit قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Pareil le verset dans surat At-Tawbah, et Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché, dit, c'est-à-dire qu'il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces gens, aux gens de Quraysh, pardon, aux gens parmi les hypocrites qui étaient dans cet événement historique dont nous allons parler, inshallah. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc, ils ont mécru après avoir eu la foi. Lorsque l'on revient au tafsir de ce verset, il s'agit de cet événement qui est Ghazwatu Tabuk, l'expédition de Tabuk, dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, accompagné de ses nobles compagnons sincères et véridiques, dans cette heure si difficile, au point où elle a été appelée Sa'atul Usra, l'heure difficile, l'heure contraignante, car ils étaient obligés de délaisser les dates qui commençaient à mûrir, elles étaient fraîches, et c'est leur récolte, c'est leur risque, c'est leur subsistance. Ils devaient délaisser leur famille, ils devaient affronter la chaleur intense, ils devaient risquer les dangers qu'ils devaient affronter. Dans cette situation, dans un campement, des gens qui étaient réunis ont discuté entre eux. Et ils se sont mis à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons en disant cette parole odieuse: Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula. Nous n'avons jamais vu des lecteurs semblables à eux, c'est-à-dire des récitateurs de Coran. Ils se moquaient des savants parmi les sahaba, des compagnons. Arghaba butunan wa la akdhaba alsunan. Ils ont dit des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas vu des gens comme ça, des gens comme eux, des gens au ventre les plus gros qu'eux, c'est-à-dire ils aiment manger trop, des gens aux langues plus mensongères que les leurs, des gens plus lâches que ces gens-là lors de la rencontre de leur ennemi. Ya'nouna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabah. Ils entendaient par là le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons. Le compagnon présent a dit: Kadhabta walakinaka munafiq. Tu as menti et d'ailleurs tu es un hypocrite. La ukhbiranna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je m'en vais de ce pas informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y est allé, Allah avait déjà azza wa jal révélé le verset et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce qui s'était passé. Quand l'homme qui s'est moqué a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant, il est revenu le supplier de le pardonner. Et le compagnon raconte qu'il l'a vu s'accrocher aux rênes de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses pieds traînaient au sol. Et qu'est-ce qu'il disait? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous ne faisions que bavarder, conjecturer, nous ne faisions que parler sans vouloir le sens de nos paroles. On ne faisait que alléger la dureté du voyage. C'est-à-dire que pour eux, d'après ces dires, ils ne voulaient que parler et prononcer des paroles n'ayant pas de sens. C'était une plaisanterie simplement. On ne voulait pas vraiment se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne le regardait pas et lui disait ce qu'Allah a dit: Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadiru. Ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Vous pouvez réécouter le sharh de Kitab al-Tawhid, le chapitre sur ce hadith bien détaillé. L'essentiel ici, c'est que l'on voit très clairement que ces gens-là sont même venus s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient la ilaha illallah, ils étaient avec lui dans la bataille de Tabouk. Et pourtant ils ont mécru à cause de cette parole. Et le fait qu'ils prient, qu'ils disent la ilaha illallah, le fait qu'ils s'excusent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il ne voulait que passer le temps, ne les a pas excusés chez Allah. subhanahu wa ta'ala. Le Sheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah a dit: wa yantiquna bi shahadatayn, ils ont prononcé les deux attestations de foi. Wa yadinuna din al-muslimina fi al-zahir, et en apparence ils avaient les pratiques des musulmans. Fa kayfa biman ja'ala al-andada ma'adahu wa maladahu wa malja'ahu fi al-raghabat, et il leur est arrivé ce qu'il leur est arrivé. Que dire alors de celui qui a pris des égaux avec Allah? Il en a fait des refuges. Il leur demande la protection. Il se précipite vers eux pour demander ce qu'ils souhaitent obtenir. Comme tous ces gens dans tous ces pays, que ce soit les pays d'Asie, les pays arabes, les pays d'Afrique, où les gens, lorsqu'ils ont le moindre problème, ta famille, ta fille est malade, ta fille n'arrive pas à avoir d'enfant, on t'a fait du mal, alors va dans la tombe de Sidi Intel, As-Sayyid al-Fulani, demande-lui, Fihi baraka, il y a une baraka, va faire un sacrifice à côté de sa tombe, et tu auras une baraka. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que les gens ont délaissé l'islam. Wallahi, ils ont délaissé l'islam. Et ils ont été vers le shirk. Car celui qui demande un mort, c'est un mushrik. C'est pas un musulman. Celui qui demande à un autre qu'Allah Azza wa Jal de le guérir, c'est un mushrik. Celui qui demande à un autre qu'Allah Azza wa Jal de le bénir, de le guider, de le protéger de l'égarement, de le protéger du mauvais œil, c'est un mushrik. N'est pas un musulman, sans le moindre doute. Et donc c'est ainsi qu'ils ont délaissé le principe de l'islam qui est le tawhid. Comme c'est le cas des adorateurs des tombes, wal'iyadu billah. Regardez ce qu'il dit. Falisanuhu yaqul la ilaha illallah wa amaluhu yaqul la ilaha illa fulan. Sa langue dit la ilaha illallah, mais ses actions disent la ilaha illa un tel. Et ça, c'est la réalité attristante. Il dit: فَهَاُولَا الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ هُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمَسْحِ. Ces gens-là était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk. Ils ont prononcé une parole et on dit qu'ils ne cherchaient qu'à plaisanter à travers cette parole. Et pourtant, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux. Ce n'est pas nous qui parlons. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a révélé un verset pour leur dire: ne vous excusez pas, ne vous trouvez pas d'excuses, vous avez mécru, tout simplement. Donc dans l'islam, quelqu'un qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas en sécurité tant qu'il n'évite pas les annulatifs de l'islam. Et le plus grand annulatif de l'islam, c'est d'adorer autre qu'Allah. Et une des plus grandes formes d'adoration d'autre qu'Allah, c'est d'adorer les tombes. Allez-vous le comprendre? Voilà ce que le Cheikh veut dire en résumé. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah a dit: kafaru bi sababi kalimatin wahida, ils ont mécru à cause d'une seule parole. Wa hum ya'maluna al-a'mal ash-shar'iyya, malgré le fait qu'ils œuvrent et qu'ils appliquent les actions religieuses. Wa ya'maluna a'mal al-muslimin, et les actions des musulmans. فَصَارُوا بِهَا كُفَّارًا بَعْدَ إِمَانِهِمْ. À cause de cette unique parole, ils sont sortis de l'islam après leur foi. لَمَّا صَدَرَ مِنْهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ صَارُوا كُفَّارًا مُرْتَدِّينَ فَبِهَذَا تَنْكَشِفُ شُبْهَةُ الْمُشَبِّهِ بِهَذِهِ شُبْهَةٌ. Et avec cela, cette ambiguïté s'efface et disparaît. Il dit, l'auteur, rahimahullah, dit: فَتَأَمَّلْ هَذِهِ شُبْهَةٌ. médite bien cette ambiguïté. وَهِيَ قَوْلُهُمْ qui est leur parole. تُكَفِّرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُنَاسًا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ. Vous dites de musulmans qui disent La ilaha illallah, prient et jeûnent, qu'ils ne sont pas musulmans. Voyez cette ambiguïté et méditez bien la réponse. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. Car cette réponse fait partie de ce qu'il y a de plus précieux dans ces quelques feuilles, c'est-à-dire dans son ouvrage, ces quelques feuilles qu'il a écrites. رحمه تعالى. Et le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim رحمه الله a dit ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. Ce que l'auteur a cité dans ses réponses fait partie de ce qu'il y a de plus précieux dans ces quelques feuilles. Pourquoi? Parce que cela te montre très clairement que cette ambiguïté en réalité est très faible et ne tient pas devant la réponse scientifique, celle du Coran et de la Sunna. Réponse suivante, la huitième et la neuvième. ومن الدليل على ذلك. Parmi les preuves également dans cela. Les preuves de quoi? الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى a dit أي ومن الدليل. الشيخ صالح الفوزان a dit نعم من الأدلة على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال. C'est-à-dire parmi les preuves aussi que celui qui commet un annulatif parmi les annulatifs de l'islam mais croit, quand bien même il prononce l'attestation de foi, prie, jeûne et fait les autres bonnes actions de l'islam. ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. Ce dont Allah Azza wa Jal a parlé dans le Coran concernant ce peuple, celui de Banu Israël, la descendance du prophète Yaqub alayhi salam, qui autrefois avait été favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres communautés, avec l'islam qu'ils avaient, étant donné qu'il s'agit ici de ceux qui suivaient Moussa alayhi salam, ils étaient musulmans. L'islam qu'ils avaient, la science qu'ils avaient, la droiture qu'ils suivaient, ils accompagnaient un prophète alayhi salam, Moussa. Annahum qalu li Moussa, qu'ils ont dit à Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, assigne-nous une divinité comme eux aussi ont une divinité. Lorsque Moussa alayhi salam était avec son peuple, subhanallah, Allah azza wa jalla les a préservés, les a sauvés de Pharaon. Il leur a donné la richesse de Pharaon. Il les a comblés de ses bienfaits. Ils ont vu des gens adorer un veau en or. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à Moussa, donne-nous aussi une divinité comme eux. Moussa alayhi salam leur a dit, innakum qawmun tajhaloun, vous êtes un peuple qui ignorait. Cette action, c'est de l'ignorance. Cette demande, c'est de l'ignorance. Wa qawlu unasin min as-sahaba, et quelques compagnons aussi qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ij'al lana dhata anwaq, donne-nous aussi l'arbre, un arbre sur lequel on accrocherait nos arbres. De quoi est-ce qu'il parle? Le hadith, il est expliqué dans le kitab al-Tawhid, on l'a fait grâce à Allah Azza wa Jal. Mais pour résumer un peu, le prophète alayhi salat wa salam allait à Hunayn avec les compagnons fraîchement convertis à l'islam. Qui dit fraîchement converti dit il y avait des aspects de l'islam qui n'étaient pas encore clairs pour eux, car ils venaient d'entrer dans l'islam. Ils sont passés près d'un arbre.
Non, non,
Ils sont passés près d'un arbre, sur les branches duquel étaient accrochées les armes des polythéistes. Et d'après leur croyance, il y allait avoir la bénédiction dans leurs armes. Alors les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un arbre comme eux aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement la même chose que le peuple de Moussa a fait avec Moussa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Allahu Akbar. Et il a dit, innaha sanan, ou innaha sunan. Voici les voies, c'est-à-dire les voies suivies par ceux qui vous ont précédé. Puis il leur a dit, qultum walladhi nafsi biyadi. Vous venez de dire, puis il a juré, par celui qui tient mon âme dans sa main, la même parole dite par le peuple de Moussa à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Assigne-nous, donne-nous une divinité à nous aussi comme eux en ont une. Et il leur a répondu, vous êtes un peuple d'ignorants. Donc vous voyez bien que le prophète alayhi salat wa salam, ou les deux prophètes alayhi salat wa salam, ont blâmé leur peuple à cause de cette demande, parce que cette action est du shirk. Ils les ont blâmés pour ça. Ils les ont blâmés pour cela. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, a dit, وأن النبيين الكريمين أنكرا ذلك واعتبراه شركا يخرجهم من الملة لو فعلوه مع أنهم يؤمنون بالنبيين الكريمين. Nous voyons ici que ces deux nobles prophètes ont blâmé leur peuple suite à cette demande et ont considéré cette action comme un acte de polythéiste faisant sortir de l'islam. S'ils l'avaient fait, ils ne l'ont pas fait. Mais cette action, s'ils l'avaient fait à l'unanimité, ils seraient sortis de l'islam. Comme on va le dire ici, on va le lire, inshallah ta'ala. Mais ils ne l'ont pas fait, justement. Donc, on voit que il y a des gens qui marchent avec des prophètes, qui disent donc la ilaha illallah, qui croient en leur message, qui appliquent leurs ordres et délaissent leurs interdits. Et pourtant, quand ils ont fait cette demande, ces deux prophètes se sont mis en colère contre eux. Parce que s'ils avaient fait ces actions demandées, ils auraient mécru, même s'ils marchaient avec le prophète. Avez-vous compris cette réponse? C'est important, parce que il va y avoir une autre ambiguïté qui va venir suite à cela. Et le shirk va y répondre. Mais avant, le Cheikh Saleh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah a dit, الدليل على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو كفر من حيث لا يشعر. Parmi les preuves qu'il est possible que la personne prononce une mécréance ou fasse une mécréance alors qu'elle ne s'en rend pas compte, puis il a cité ces deux histoires. Les compagnons ne se rendaient pas compte que c'était une mécréance, ni les compagnons de Moussa. وهذا يدل على أن موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام قد أنكر ذلك غاية الإنكار وهذا هو المطلوب. Ceci prouve très clairement que les deux nobles prophètes ont blâmé fortement leur peuple, et c'est ce que nous recherchons justement, le fait qu'ils les ont blâmés. Parce que ils ne les ont blâmés qu'à cause du fait que ces actions font partie du polythéisme. فَإِنَّ هَذَيْنِ النَّبِيَّيْنِ الْكَرِيمَيْنِ لَمْ يُقِرَّا أَقْوَامَهُمَا عَلَى هَذَا الطَّلَبِ الَّذِي طَلَبُوهُ بَلْ أَنْكَرَا. Ils n'ont pas accepté ni approuvé cette demande. Au contraire, ils l'ont blâmé et l'ont réprimandé. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala a dit, والمراد بعلمهم بالنسبة إلى غيرهم في زمنه. Lorsque l'auteur a dit de ces gens-là, et c'est là qu'on voit l'importance d'étudier de la parole des savants et de ne pas prendre un livre seul et lire et croire que on peut se suffire, on a compris. Non. Car ici, si je te dis, si je te pose la question, comment se fait-il que l'auteur a dit, Allah Azza wa Jal a parlé des Banu Israël qui avaient l'islam, qui avaient la science et qui étaient droits, alors qu'Allah Azza wa Jal a dit que Moussa alayhi salam leur a dit, innakum qawmun tajhaloun, vous êtes un peuple qui ignorait. Subhanallah. L'imam Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah s'est trompé, n'a pas vu qu'Allah a dit qu'ils étaient ignorants. Comment peut-il dire qu'ils sont savants? La réponse, que c'est toi qui n'as pas compris, c'est pas le cheikh rahimahullah ta'ala. D'où l'importance, chers frères, de prendre la science des ulama et pas simplement de dire ulama, 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 alors qu'en réalité, si on regarde la personne, ni talab al-ilm, ni ulama, ni rien de cela. Ce n'est pas que des paroles, mais c'est du ilm qui doit être enraciné en toi. Tu es capable de répondre, tu es capable d'enseigner, de corriger. Barakallahu fikum. Donc voici ce que dit l'auteur, le commentateur. Wal muradu bi ilmihim bi nisbati ila ghayrihim fi zamanihim. Quand il dit qu'ils ont de la science, c'est-à-dire par rapport aux autres personnes de leur époque, du fait qu'eux, ils marchent avec un prophète, forcément ils connaissent plus que les autres, mais le fait qu'ils marchent avec un prophète, raison pour laquelle ils ont plus de connaissances que les autres, n'empêche pas que dans une partie ils peuvent être ignorants. Donc voilà ce qui est voulu par la parole de l'auteur. Il n'y a pas de contradiction avec le verset. يعني أنهم أتباع موسى, c'est-à-dire qu'ils sont les suiveurs de Moussa. ويقتبسون من علمه ومما جاء به, ils puisent de sa science et de lui et de la source de laquelle ils puisent sa science. Et cela ne contredit pas le verset où Moussa عليه السلام leur dit qu'ils sont ignorants. فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل, cela prouve que ce qu'ils ont fait, cette demande, n'a été faite qu'à cause de leur ignorance. Leur ignorance de ce sujet, même s'ils ont la science dans d'autres sujets. Voilà ce qui est voulu. Donc, aussi dans l'histoire des compagnons, le cheikh a détaillé ce que vous avez déjà, vous venez déjà d'entendre, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rudement blâmés avec sévérité, et pourtant ils, retenez bien ça, pourtant ils ne savaient pas que c'était du polythéisme. Mais malgré le fait qu'ils ne savaient pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rudement blâmés, et ça on va le détailler dans un point important dans quelques instants inshallah ta'ala. Mais avant, les polythéistes vont vouloir te dire que tu te contredis et que ce que tu viens de le dire, de lui dire ou de leur dire est une preuve pour eux et pas pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Walakin lil mushrikin ashuba. Mais les polythéistes ont une ambiguïté. Yudluna biha inda hadhihi al-qissa. Une ambiguïté qu'ils véhiculent lors ou lorsque l'on cite cette histoire. وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. Ils disent, Banu Israël n'ont pas mécru pour cela. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. Les compagnons qui ont demandé au prophète عليه الصلاة والسلام un arbre, ils n'ont pas mécru. C'est-à-dire, donc c'est exactement la même chose que nous faisons. Voyez la ruse. On fait la même chose qu'eux. Eux n'ont pas mécru. Pourquoi dites-vous que nous, on mécroit? Il y a des énormes différences entre les deux peuples. Elles vont être citées par l'auteur. Mais avant, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a dit « وَلَكِنْ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ كَشْفِ شُبْهَتِهِمُ السَّابِقَ » Mais lorsque l'on dissipe l'ambiguïté qui vient d'être citée, il cite les polythéistes citent une autre ambiguïté. Quelle est-elle ? Elle est celle que vous venez d'entendre. Ils disent, vous ne pouvez pas prendre ces deux histoires comme un argument contre nous. Car vous citez ces deux histoires pour dire que nous avons mécru, alors que eux dans ces deux histoires n'ont pas mécru. Et c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que l'acte, c'est de la mécréance. Eux ne l'ont pas fait. Mais s'ils l'avaient fait, ils auraient mécru. Quoi est la différence? Donc le fait qu'ils ne l'ont pas fait est une chose, qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils n'ont pas mécru, ce n'est pas parce que cet acte n'est pas du polythéisme. C'est parce qu'ils ne l'ont pas fait. Alors que vous, vous le faites jour et nuit. Eux ne savaient pas. Vous, vous savez. Et ensuite, vous dites que vous êtes comme eux. C'est-à-dire excusé. Non, vous n'êtes pas excusé. La réponse est de dire إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلُوا. Les gens de Banu Israël n'ont pas fait cet acte. Aussi, ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'arbre, ils n'ont pas commis cet acte. وَلَا خِلَافَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا. Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit, il n'y a aucune divergence sur le fait que s'ils avaient commis cet acte, ils auraient mécru. وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّ الَّذِينَ نَهَاهُمُ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam law lam yuti'u wa attakhadhu dhata anwaatin ba'da nahyihi lakafaru wa hadha huwa al-matlub. De même, les compagnons qui ont demandé au prophète alayhi salatu wa sallam l'arbre, s'ils avaient désobéi au prophète alayhi salatu wa sallam et avaient pris cet arbre, ils auraient mécru. Et c'est de cela que l'on parle. Donc vous voyez bien que l'ambiguïté a été détruite. Walhamdulillah. Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah dit: Walakin, et là il va nous donner la bonne compréhension de cette histoire. Et il va nous montrer qu'est-ce que l'on peut tirer de cette histoire. Walakin hadhihi al-qissa tufidu anna al-muslim bal al-alim قَدْ يَقَعُوا فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الشِّرْكِ لَا يَدْرِي عَنْهَا. Première chose, cette histoire nous montre que le musulman, même le savant, un connaisseur, قَدْ يَقَعُوا فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الشِّرْكِ لَا يَدْرِي عَنْهَا, est susceptible de tomber dans une forme de polythéisme sans qu'il ne s'en rende compte, par ignorance. Comme ces gens-là qui étaient avec Moussa ou les compagnons qui étaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. S'ils avaient commis cet acte, ils seraient tombés dans le polythéisme, dans une forme de shirk, sans s'en rendre compte, sans le savoir. Qu'est-ce que cela te montre? L'importance d'apprendre le tawhid et de ne pas te sentir à l'abri. Fatufidu ta'alluma wa taharruz. Cela te montre l'importance d'apprendre et de te protéger. Comment tu te protèges si tu restes ignorant? Comment tu te protèges de la bid'a si tu restes ignorant? Comment tu te protèges de l'égarement si tu restes ignorant? Si tu ne sais pas que ici c'est halal et là-bas c'est haram, comment vas-tu faire la différence entre ici et là-bas? Et c'est de cela que le shir parle, rahimahullah. Wa معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. Deuxièmement, la parole de l'ignorant qui dit nous avons compris le tawhid, elle fait partie de la plus grande ignorance et des plus grandes ruses de shaytan. Celui qui dit pourquoi ces gens-là sont toujours en train de parler tawhid, 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 shirk, 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 comme il dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. Pourquoi ne pas parler de ce qui se passe dans le monde musulman, de la politique, de je ne sais quelle chose? Tout le temps, tawhid, 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 shirk, shirk, shirk. Ça, c'est la pire des ignorances. Parce que tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'unicité d'Allah azza wa jal en détail, avec ses preuves du Coran et de la Sunna, c'est ce qui te protège de tout mal. Et tant que tu n'es pas correctement dans le tawhid, cher frère, tu ne peux te protéger de l'égarement. Et je tiens à préciser un point important. Il ne s'agit pas que de répéter comme ces ignorants qui disent tawhid, tawhid, tawhid et qui ne connaissent rien du tawhid. Comme l'a dit le noble Cheikh Sulaiman al-Ruhayli, Hafizahullah, qui s'occupe dans les fitanes, dans les divisions de leurs frères, dans la sunna. Et Cheikh Sulaiman a dit, et quand tu regardes, ils n'ont pas étudié, et pour beaucoup d'entre eux, la ya'rifuna at-tawhid as-sahih, ils ne connaissent pas le tawhid correct. La moindre ambiguïté dans le tawhid, tu lui demandes la réponse, wallahi, il est perdu. Juste dans le mot wahada yuwahidu. Wahada qui veut dire rendre une chose unique. Tu lui dis, comment pouvez-vous dire tawhid, qui veut dire rendre une chose unique alors qu'Allah est unique? Il n'a pas besoin qu'on le rende unique. Wallah, il ne sait pas te répondre. Et après, il dit, Fulan la yad'u ila tawhid. Tel frère, il n'appelle pas au tawhid. Et quand tu regardes tel frère, tu vois qu'il a enseigné kitab al-tawhid, al-usul al-thalatha, nawaqid al-islam, al-qawa'id al-arba'a, tadrisuhu fi tawhid. C'est quoi le sabab? Quelle est la cause de ça? Al-jahl bi-tawhid. Et de croire que c'est que de dire ulama, ulama, tawhid, tawhid. Et à la fin, la personne ne connaît pas les ulama, ne connaît pas le manhaj des ulama, ne connaît pas le tawhid. Ne connais pas le tawhid en détail. Ittaqullah wa ta'allamu dinakum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et apprenez. Assis-toi avec kitab al tawhid, apprends par cœur, apprends les masa'il. Apprends les hadiths qui prouvent que le mot tawhid est dans le Coran et la Sunna pour répondre. Apprends quand est-ce que le shirk, quand est-ce que al-khawf fait partie du shirk asra, quand est-ce qu'il fait partie du shirk akbar. Apprends ça. Et là, tu connaîtras le tawhid et tu verras que tu as besoin toi-même d'apprendre au lieu de perdre ton temps dans cet égarement. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, tu vois l'importance d'apprendre. Et celui qui dit, le tawhid, nous l'avons compris. L'unicité d'Allah, Allah est unique, ça suffit. C'est celui-là qui va tomber dans le shirk. Wal'iyadu billah. Mais l'autre, qui ne connaît pas le tawhid, comment il va le sauver du shirk? Comment il va, à part dire, il a commis le shirk? Certes, il a commis le shirk. Sauve-le du shirk. Va lui enseigner le tawhid. Va lui dire, qala Allah, qala Rasulullah. Va lui dire, qala ibn Kathir fi tafsir. Va lui dire, qala ibn Sa'di fi tafsir. Va lui dire, qala ibn al-Uthaymin. Et tu verras que la science, c'est pas quelque chose de simple et que des paroles. Parce que notre da'wah, chers frères, c'est une da'wah qui est basée sur le ilm. Et si on perd notre temps et on n'apprend pas le ilm, et on n'apprend pas la parole des ulama de la sunna pour de vrai, on la comprend, on la met en pratique, on sera la risée des gens. Vous voulez faire ça de la da'wah, du tawhid et de la sunna? Vous voulez que les gens rient de la da'wah, du tawhid et de la sunna? Et que les gens croient que les ulama en question, les savants, pour eux, donc chez les gens de la masse qui vont voir ces façons d'agir et ces comportements, pour eux, ces ulama, c'est ça qu'ils enseignent à leurs élèves. Wallah, c'est pas ça qu'ils enseignent à leurs élèves. Ils enseignent la science pure du Coran et de la Sunna. Le doué de raison comprend les messages. Barakallah fikum. Donc tu vois que c'est la pire des ignorances. Tufid at-ta'allum, l'importance d'apprendre, c'est-à-dire ta'allum asbab al-najah, apprendre les causes du salut, les causes qui te protègent de l'égarement, qui te préservent du shirk. فَإِنَّهُ لَا نَجَاتَ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَمَعْرِفَةِ الضِّدِّ وَالشَّرِّ لِغَيْرِهِ. Car tu ne peux obtenir le salut, être protégé et préservé que par la science et par la connaissance du contraire du bien, du mal. Tu dois connaître le bien en détail et le mal en détail. Et ça, c'est la da'wa de Ahl Sunnah. Tu connais al-tawhid en détail, al-shirk en détail, al-sunnah en détail, al-bid'a en détail, le bien en détail, les péchés en détail. C'est comme ça que tu vas faire la distinction entre le vrai et le faux, le bien et le mal. C'est ce que veut dire l'auteur ici. يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. Connaître le shirk, ses catégories, ses moyens immenants, ses causes, afin d'en être protégé. كما قال تعالى, comme Allah عز وجل a dit, ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Nous vous éprouverons par le mal et le bien en tentation. Allah Azza wa Jalla va t'éprouver par le mal et le bien, mais si tu ne connais pas le mal ni le bien, comment vas-tu faire la différence? وقال حذيفة, ce noble compagnon رضي الله عنه a dit, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ses compagnons pardon, l'interrogeaient au sujet du bien, la prière, le jeûne, l'aumône, le hajj. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً يُدْرِكَنِي. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Et par la cause de Hudhaifa, qu'Allah l'agrée, aujourd'hui nous avons appris beaucoup des mots desquels on s'éloigne. Et ces hadiths ont été rapportés par Hudhaifa parce qu'il posait beaucoup de questions sur les égarements et les gens de l'égarement. Et le poète a dit, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقِّيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعْ فِيهِ. J'ai connu le mal, non pas pour le mal, mais plutôt pour m'en protéger. Et celui parmi les gens qui ne connaît pas le mal tombera dedans. Ça, c'est une sagesse d'un poète que les savants ont l'habitude de citer. وَالتَّحَرُّزْ يعني اتهام العمل أن يكون داخله شيء من الشرك. التحرز, le fait de prendre garde, de faire attention, c'est-à-dire de bien vérifier qu'aucune forme de shirk ne s'est mêlée à tes actions. بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه. Au contraire, il se dit, il cherche, est-ce que j'ai été sincère dans mon action. وتفقد النفس ولحظاتك في من هي. Cherche en toi-même et dans les moments que tu passes. Dans quoi tu le passes et pour qui tu le fais? Est-ce pour Allah subhanahu wa ta'ala? Voici la parole de celui qui dit, nous avons compris le tawhid. Comme des élèves de Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah l'ont fait un jour. Et lui ont dit, on aimerait que tu nous enseignes une autre science. Regardez l'intelligence de cet homme. Ils lui ont dit, on aimerait passer à autre chose, on a compris le tawhid. Il leur a dit, il y a un homme qui a commis zina ma'a ummi, wal'iyadhu billah. Il a commis la fornication avec sa mère. Allahu akbar, a'udhu billah. Ils se sont étonnés. C'est normal. Hada amalun shani'. C'est quelque chose de gravissime. Mais ils ont exprimé un certain dégoût devant cette action. Et le shir qui les éduque, et ça c'est le alim. Le alim, il t'éduque. Le jahil, il te corrompt. Il te pervertit. Tu t'assois devant lui, tu crois que tu apprends la science. Il corrompt ton cœur, il t'éloigne d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Au nom d'Allah. Wal'iyadhu billah. Il leur a dit, un autre jour, il y a un homme qui a sacrifié un petit coq, même pas un coq d'une grande forme, un petit coq au nom d'un djinn. Ils ont dit, c'est grave ce qu'il a fait. mais la réaction qu'ils ont eue devant le shirk, al-dhabhu li ghayrillah, huwa a'zamu wa ashadd hurma min az-zina, c'est pire que zina, ashadd min qatl an-nafs, c'est pire que de tuer quelqu'un. Et pourtant, quand on leur a dit que quelqu'un a commis la fornication avec sa mère, ils ont une réaction avec beaucoup plus d'expression qu'ils n'ont eu quand on leur a dit qu'un acte de polythéisme a été commis. Prenons un exemple de notre époque. Aujourd'hui, quand quelqu'un jure par un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu viens lui dire, la tahlif bi ghayrillah, ne jure pas par un autre qu'Allah, jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien des fois parmi eux ont le sourire? Parce que pour eux, c'est rien ce qu'ils ont fait. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Ces mêmes personnes, quand elles entendent que quelqu'un a commis un meurtre, comment elles réagissent? Avec beaucoup plus d'expression, n'est-ce pas? Pourtant, jurer par Allah, chez Allah, c'est plus grave que le meurtre. Jurer par un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pire que commettre un meurtre. Wal'iyadu billah. Donc on voit qu'on n'a pas compris le tawhid. Comment peut-on dire nous avons compris le tawhid? Tu vois bien l'égarement de ces gens-là. On va s'arrêter ici. Inch'Allah ta'ala. Allah ta'ala, tabaraka wa ta'ala, a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا